est blanche.
À toutes les amatrices et à tous les amateurs de 40 nuances de Next et de ses champions de la tech française, pour les fêtes, toute l'équipe vous propose de découvrir une autre de nos productions feuilles blanches, Cash Out, un podcast dans lequel nous vous faisons revivre les coulisses des sessions d'entreprise à travers les yeux et le vécu de leurs dirigeants. Aujourd'hui, on vous fait vivre une session qu'Olivier connaît particulièrement bien, celle de Price Minister à Rakuten, racontée par Pierre Kosciusko-Morizet. Si vous pensez un jour vendre votre entreprise, ou simplement que vous aimez les histoires d'entrepreneurs sans presque aucun tabou, Cash Out devrait trouver une place de choix dans votre playlist. Bonne écoute et bonne fête. Un nom que l'on peut résumer en trois lettres. Trois lettres presque devenues une marque, trois lettres que tout entrepreneur connaît ou a entendu. Je ne parle pas de Joule, je ne parle pas de IAM, je ne parle pas de NTM, je parle de PKM. Pierre Kosciusko-Morizet, salut.
Salut.
J'ai le plaisir de te retrouver avec mon compère Renaud Granier et ensemble, on va parler de la folle aventure de la revente de Price Minister à Rakuten.
Salut Thomas.
Là, on essaie de se reposer
salut,
en
Pierre.
La voix au rythme. Alors maintenant, on démarre nos émissions avec une musique qui nous est proposée par notre invité pour se présenter, pour partager. De qui parle-t-on ?
Mais des bonnes vibrations.
Alors, j'arrive jamais à prononcer le nom, mais j'adore ce son. Donc, je trouve que c'est hyper, hyper joyeux. C'est une bonne musique du matin.
Issam Al-Najjar, Adal voilà. Abek.
Exactement, Issam Al-Najjar. Et c'est vachement sympa. Et alors, je ne comprends pas du tout ce qu'il dit, mais ça doit être assez joyeux, j'espère. Après, il y a des, parfois, y a des chansons qui sont joyeuses et en fait, ça dit, les paroles ne le sont pas. Mais là, je pense que c'est assez, assez joyeux. Ça, en tout cas, ça donne envie de bouger et de passer une bonne journée, je trouve.
Et donc, c'est la promesse pour l'heure qu'on va passer ensemble.
J'espère, ouais. On va voir.
Notre promesse, c'est pas de bullshit, de partager les coulisses finalement d'une revente avec les ups et les downs. Il y en a forcément pour tous les entrepreneurs. Et je te propose de commencer par le jour J, le jour de la signature de Price Minister à Rakuten. Si je dis pas de bêtises, c'était dans la presse. Alors c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. La presse n'est pas toujours pile poil exact, mais on annonçait 200 millions.
Ouais. En fait, c'était un peu moins prompt et puis un peu plus en comptant l'earn-out. Ouais. Ouais.
Eh bien, le jour J, c'est maintenant. The final countdown, Europe.
Là, on entre dans la salle de signature armée de nos stylos.
Encore à l'époque.
À l'époque, ouais, on signait avec des stylos.
Beaucoup de pages à signer.
Il y avait quand même déjà des sortes de relures qui permettent de ne pas tout signer. Mais pas encore de DocuSign ou d'équivalent. Ouais.
Et là, tu arrives comme cette musique en mode conquérant. Il y a encore des doutes.
Non, j'ai un grand box à gauche, un stylo à droite, une grande cape. Et puis voilà. Non, c'est vrai que mais le jour de la signature, en fait, on est un peu sonné parce qu'on a pas beaucoup dormi pendant deux semaines. Il y a eu les due diligence, ça prend plein de temps. On a passé la nuit, quasiment une nuit blanche avec les avocats et tout. Donc on réalise pas trop en fait.
Alors tu parles de nuit blanche. Tu peux nous parler peut-être de la dernière nuit avant le closing final. C'était sport. Il y a eu encore des points de négo, etc.
Ça s'est fait dans une ambiance super super détendue en fait, paradoxalement, parce qu'on a vendu à des Japonais donc en juin 2010 et on était très confiants, on les trouvait super, on continue d'ailleurs, c'est des gens bien, ils ont tout le temps été corrects et honnêtes avec nous, donc et puis honnêtes tout court, donc on craignait pas qu'ils changent d'avis ni d'entourloupe. Bon, c'est un gros événement pour nous, les cinq cofondateurs qu'on était. Donc c'était, il y avait de la. Mais je dois te dire, je me rappelle pas avoir senti vraiment beaucoup de pression. Et après, on était avec des avocats avec nous et avec eux qui étaient qu'on connaissait, qui étaient bien et qui étaient pas dans une confrontation un peu bête comme ça peut être le cas parfois. Donc quand il y avait des questions, on trouvait des solutions ensemble. C'était. Et ça s'est passé très vite aussi, donc on n'était pas trop fatigués.
On va revenir sur les négos, mais donc tu le disais, cinq cofondateurs, vous retrouvez en bas de l'immeuble pour monter ensemble, chacun arrive au compte-gouttes. Remets-nous un peu dans l'ambiance.
Bien exactement. La situation. Ce dont je me rappelle, moi, c'est l'annonce aux équipes. Et parce qu'en fait, ça c'était un truc qui m'avait vachement marqué. Il y avait eu un truc quand même assez marrant pour la signature elle-même. C'est que le japonais, il n'était pas là à ce moment-là. Il était au Founders Forum à Londres. Et donc, il avait fallu qu'un japonais qui bossait pour lui aille avec les papiers, genre au milieu de la nuit, en voiture de Londres à 1h30 de Londres, pour faire signer les trucs. Et après, avec sa voiture, il était parti, parce que c'était plus rapide à ce moment-là, je sais plus pourquoi, mettre sa voiture sur un bateau. Il était arrivé à Paris pendant la nuit. Ça avait été un peu
faut pas de grève des ferries. Ou...
C'est clair. Et là, bon, on avait envie que ça se fasse. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où tout est prêt, bon, t'as envie que ça signe, quoi. Donc là, il y avait un petit peu d'appréhension de notre côté. Et le document était arrivé pendant la nuit, en fait, le matin. Et pendant la nuit. Et le matin, je sais plus quelle heure il était, à 9h, je vais au bureau pour aller annoncer ça. Je prends pas le métro parce que je veux pouvoir téléphoner sur le chemin. Donc je vais à pied au bureau. À l'époque, j'ai 3/4 de marche à pied. Au lieu de plus un quart d'heure de métro. Et donc
là, tu mets tes baskets.
Et donc, je danse, je chante, je mets mes baskets.
Je peux expliquer la joke ou pas?
Ah oui, parce que je suis pieds nus, ouais. Ouais, je marche pieds nus dans la rue, mais pas une demi-heure. Et donc, en fait, sur le chemin, j'appelle les actionnaires un à un en leur disant, voilà, on a vendu, t'as gagné de l'argent, etc.
Attends, pardon, ils savaient quand même qu'il y avait ce process.
Ouais, mais on avait des pouvoirs pour tout le monde. Et donc, en fait, ils avaient pas de. Et je vais même. Non, et c'est même plus que ça. C'est qu'en fait, comme on avait un drag along, en gros, un truc qui fait que si nous on vendait, les autres devaient vendre, il y en avait plein qui n'étaient pas au courant. Et donc, je les ai appelés en disant, t'as gagné. 100 000 euros,
le matin de signature.
1 million d'euros. Ouais, c'était signé, en fait.
Généralement, les mecs font pas complètement la gueule non plus. Du coup,
mais j'ai eu droit quand même à, je vais devoir payer des impôts. Désolé, mon père. Ça, pour la blague, c'était mon père qui m'avait dit ça. Il était charmant. Sur le chemin, donc, j'appelle comme ça les investisseurs un à un. Et puis, j'arrive au bureau. Il pleuvait en plus, j'arrive trempé. Et puis, je dis, voilà, on va faire une petite réunion générale. Et j'annonce ça aux salariés. Et c'était le moment qui m'a le plus marqué.
Parce que ça, c'était pas prévu. Les salariés n'étaient pas prévenus de cette réunion, de ce point?
Non, parce qu'on était, tant qu'on n'est pas sûr, on pouvait pas leur dire. Certains le savaient. Chez Price Minister, on avait donné des stock options, enfin, des BSPCE, donc des actions au capital, à tout le monde. Donc en fait, ils étaient tous contents, ils ont tous gagné de l'argent.
Donc ils ont eu une clause d'accélération.
Ouais, exactement. Et ils ont gagné, celui qui a gagné le plus, il a gagné plus d'1 million d'euros, donc c'est beaucoup. Ils ont tous gagné vraiment des choses significatives pour eux. Donc tout le monde était content, mais un peu surpris quand même aussi.
Certains entrepreneurs à ce micro ont évoqué quand même des formes de déception ou de frustration de pas avoir été mis au courant. Là, tout le monde étant partie prenante au résultat, c'était plus simple.
Ouais, honnêtement, ils étaient surpris, mais j'ai pas ressenti de frustration. Ce qu'il y a parfois en plus, c'est que souvent tu vois ton concurrent direct, donc tu passes du temps à dire on va les battre, on est meilleurs, etc. Et puis après tu leur vends, alors les gens ils comprennent, maintenant je crois qu'ils étaient méchants, en fait ils sont gentils. Nous c'est différent, on vendait à un japonais, c'était un peu exotique. Le Japon,
Rakuten à l'époque n'était pas sur le marché français.
Non, ils étaient à peine en Europe, enfin en gros pas en Europe. Et d'ailleurs j'ai dirigé l'Europe pour le groupe pendant 4 ans après, donc ils nous achetaient aussi pour ça, pour avoir un pied en Europe.
Et toi, tu parles des équipes, mais toi, comment tu l'as ressenti l'annonce aux équipes, justement, si tu t'en rappelles?
Moi, j'ai pas réalisé ce qui se passait. Moi, j'ai vraiment pas. J'ai mis 2 ans à réaliser, en fait.
Ok.
En fait, j'étais pas. C'est assez bizarre. Globalement, j'ai mis 2 ans à changer un peu de vie, à commencer à dépenser un peu ce que j'avais gagné.
On va revenir là-dessus, Pierre. On aime bien le côté complètement asynchrone de ces histoires. Mais donc, le jour J se passe, tu pars voir tes équipes, tu leur annonces. La fin de journée se finit comment?
Je me rappelle même plus. C'est terrible parce que on s'imagine toujours que voilà, ce jour-là, tu sais pas quoi, tu fais n'importe quoi. Honnêtement, je me rappelle plus. Je pense pas avoir fait un truc complètement incroyable. J'étais, je sais pas comment dire. J'étais content, mais j'étais très content. Mais c'était. Si on n'avait pas vendu, à ce moment-là, on aurait vendu plus tard, plus cher. Au fond, je veux dire, quelque part, j'étais pas, De l'extérieur, on se dit waouh, c'est incroyable. Mais quand on le vit de l'intérieur, disons que Price Minister était rentable. C'était en 2010, on a fait 15 millions d'euros de bénéfices. Donc quelque part, bon, on a vendu 200 millions, mais enfin, de toute façon, on était bien, quoi. Alors en même temps, j'avais aucun argent de côté. J'étais pas mal endetté même. J'avais 7 millions d'euros de dettes personnelles. J'avais rien. Donc je passais de
pour la boîte.
Pour moi, sur moi. Moi perso.
Oui, oui, non, mais c'est 7 millions, ouais, pour la boîte.
Ouais, je jouais mon appart, j'avais rien de côté. Au contraire, j'étais en négatif. Donc c'était un vrai changement. Mais encore une fois, comme je ne l'ai pas réalisé tout de suite, je pense que j'ai dû aller boire un verre avec des potes le soir, comme d'hab, quoi. Enfin, je veux dire, mais on est sûrement sorti, mais je veux dire,
t'as payé ta tournée quand même.
Ouais, je pense, ouais.
C'est sympa. Hein.
Allez, petit flashback, on va retourner aux premières négos, premières peut-être propositions de rachat. Pour parler de toute cette période d'avant, tu as choisi Jeff Buckley, Alléluia, on l'écoute. Tu joues un peu de guitare aussi,
ouais.
Moins qu'avant.
Non, je fais surtout du piano en fait. Et en ce moment, je me suis un peu mis à la guitare pour composer et puis pour chanter.
C'est plus facile à ramener sur une plage qu'un piano.
Ouais, puis c'est moins, je sais pas comment dire, c'est moins solennel la guitare. Donc pour composer, en fait, je trouve ça plus naturel que le piano. Mais maintenant, je fais plutôt l'électro. Après, je vais mettre du piano et d'électro dans mes tracks de la guitare dans mes tracks d'électro, mais pas encore.
Je dois être sur une version live.
Je t'aime bien trop là.
Ouais, ouais.
Mais elle est
sympa. Hein.
Et là, ça arrive là, le passage qu'on reconnaît. Ouais.
Pourquoi tu as choisi Alléluia pour parler de ce moment ?
Ah, là, j'ai vraiment plein de choses à dire. Ça peut être très long, mais je vais essayer de faire court. Mais,
la création, peut-être, on peut démarrer.
Mais là, moi, quand j'écoute Jeff Buckley, j'ai pas envie de parler dessus.
Je comprends.
C'est trop beau. Cette version est incroyable. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major
lift, the baffled king composed. Et donc on... Alléluia, 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 Alléluia.
C'est tellement beau.
C'est sur la montée, moi, que je t'attends.
Needed proof. You saw her bathing on the roof. A beauty in the moonlight of us through you. She tied you to a kitchen chair. She broke your phone and she cut your hair. From your lips, she drew the hallelujah. Alléluia, 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 Alléluia. Ah, c'est tellement beau.
On pourrait rester des 6 minutes 33 de la chanson sans problème. On s'en remettra après.
Ouais, j'aurais dû prendre ma guitare.
Tu dis beaucoup de choses à dire.
Ouais, en fait, cette chanson, en gros, je vais essayer de faire court, mais quand on a vendu, en fait, on a été contacté par des Américains. D'abord, les Japonais nous ont contactés en nous disant, en passant par le service client, on reçoit un mail en disant, un gars nous dit, ouais, je suis là avec mon boss, on a le mail le soir. On était à un dîner, on nous a parlé de vous, on part demain après-midi, est-ce qu'on peut se voir demain matin ? Et on a le truc, on dit, bon, allez, OK. Et puis, ils disent, OK, on vient. Et puis on a une demi-heure avant le rendez-vous. Ah ben, finalement, notre patron peut pas, il est reparti avec son jet. Donc bon, ils sont bizarres, ces gens-là, quand même. OK, donc bon, on les avait pas trop qui c'était de toute façon, donc on les voit pas. Et puis, quelques mois après, ils reviennent. Et ils nous disent, est-ce qu'on peut se voir ? OK, on peut se voir. Et là, ils nous disent, voilà, on voudrait vous racheter, mais on avait une place de marché de Price Minister où on permettait aux vendeurs de vendre, mais que ce soit des vendeurs particuliers ou des professionnels. Et ils disent, on veut racheter que la partie vendeur professionnel. On dit, on a des millions de vendeurs, on va pas dire aux gens, là, les... Donc, on se dit que c'était un peu perché, que c'était pas possible. On leur dit poliment non. Et puis après, des Américains nous appellent pour nous racheter. Et là, on se dit, bon, on va peut-être appeler les Japonais parce qu'ils avaient quand même l'air motivés. Donc, on écrit aux Japonais en disant, bon, on a des gens très intéressés par nous racheter. Si jamais vous voulez, c'est un peu le moment parce qu'après, ça risque d'être trop tard. Et là, ils nous disent, écoutez, on peut pas venir, mais vous pourriez venir au Japon, par exemple, vendredi. Et puis Pierre et moi, mon associé, moi j'étais allé déjà une fois au Japon, j'avais adoré, mon associé Pierre n'était pas allé. On se dit, bon, on peut y aller vendredi, en plus on passe le week-end, bon, c'est sympa quoi.
Au pire, ce sera pas perdu.
Exactement. Moi à l'époque, j'ai 33 ans, j'ai jamais, enfin j'ai, ouais, j'ai, ouais, bref, j'ai juste avant, mes 30, j'ai 32 ans à l'époque. J'ai jamais volé en business de ma vie, et puis on me dit, on avait pris un banquier d'affaires, on me dit, ouais, allez-y, bon, pour être en forme, prenez en business et tout. Je me dis, bon, c'est sympa de prendre en voler en business, jamais fait, je veux voir ce que c'est. On y va, on se pose au Lounge d'Air France à Roissy, on a failli louper l'avion, parce qu'on était en train de siffler le rouge.
Champagne.
le rouge en l'occurrence, je crois, mais, et puis on entend nos noms au micro, oh là là, faut y aller, oh, merde, quand même, ce serait con de louper. On a l'avion, et on arrive là-bas. On va voir le patron qui nous voit trois quarts d'heure. Et à la fin du rendez-vous, le numéro 2, le patron international, nous dit, vous avez beaucoup de chance. En général, il voit les gens 20 minutes et là, il vous a vu trois quarts d'heure. C'est super bon signe. Il dit, bon, ok, super. En même temps, on est quand même venu au Japon.
Vous saviez qui c'était? Enfin, une fois que tu y vas et que tu as rendez-vous, tu fais quelques recherches,
ouais.
J'imagine. Ouais.
On l'a googlé. On a vu que c'était un entrepreneur hyper successful qui avait monté donc Rakuten. Lui s'appelle Hiroshi Mikitani. Et puis Rakuten valait 20 milliards et qu'il en avait la moitié, donc c'était un bon succès. Surtout au-delà des chiffres, c'est une boîte qui est très très bien implantée, très avec une très grosse notoriété au Japon. Et lui aussi en particulier parce qu'il fait plein de choses. Il est très visible personnellement. Ça, on l'a vu après. On s'est un type assez intéressant avec des rêves qui dépassent beaucoup le Japon, qui parfois se réalisent, parfois se réalisent pas, mais en tout cas une bonne vista. Et donc on fait ce rendez-vous et après on nous dit bon, on va dîner avec le directeur de l'international qui nous dit Mikitani peut pas venir dîner avec vous. Mais bon bah ok.
Et le meeting comment il se passe? Il est intimidant? Il est
non, on est non non on est le il voulait pas avoir de banquier d'affaires. De toute façon l'idée c'était nous de le rencontrer. Donc j'y suis allé avec Pierre Kring, mon associé et moi. Non, c'était sympa. En gros, on était sur son je sais pas sur son ordinateur. On lui montrait Price Minister. On lui montrait comment ça marchait. Vraiment très, honnêtement, on n'est pas trop stressé avec Pierre de nature. Et puis j'avoue que la boîte marchait vachement bien en fait. Donc on était
pas un enjeu démon.
Ouais, voilà, on était content d'être au Japon. De toute façon, on pensait pas qu'ils achèteraient honnêtement. On allait passer un bon week-end quoi. Après, on va dîner. On a découvert un plat bizarre où on mangeait à base de, on mangeait un œuf cru. Vraiment, on a passé une soirée marrante, on a bien mangé. Et puis après, le patron de l'international toujours nous dit bon, il aimerait bien vous retrouver. On pourrait le retrouver au karaoké. Parce que je vais venir après. Alléluia. Je sais pourquoi je raconte tout ça à moi.
On sait exactement où tu vas. Je crois savoir.
Il y a un fil.
C'est le deuxième qui nous parle de ça.
Olivier, on a parlé déjà.
Non, Stéphane Bobo. Je sais pas si tu connais qui a vendu. Il avait mis toute la musique dans nos sonneries de téléphone et il a vendu une deuxième boîte, bref, à des Japonais. Génial. Et ça se fait au karaoké.
Et en fait, voilà, on débarque au karaoké et en gros, chacun chante sa chanson et moi, je chante Alléluia. Alléluia, c'est une chanson que je jouais au piano, que je connaissais par cœur. Quand je la chante, je donne tout, quoi. Les limites, moi, je suis hyper ému, limite je pleure quand je la chante. Et pendant que je la chante, le patron Mikitani, là, il sort de la pièce. Et suivi du numéro 2, le patron international qui sort. Et puis je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Je suis en train de chanter. J'ai
fait une fausse note.
Ouais,
je sais pas.
Peut-être qu'Alléluia, ça leur paraît un peu religieux, ou je sais pas, ou je chante trop. Et puis on se regarde avec Pierre un peu ennuyé. Et donc, bon, je finis la chanson. Là, le numéro 2 revient. Ken, on va l'appeler Ken, ça sera plus simple. Ken revient. Et il me dit, texto, he likes you very much. He wants to buy your company. Je me suis dit, c'est bon.
sur Alléluia.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme les Japonais sont très, très hiérarchiques, en gros, si le grand patron dit qu'il faut acheter une boîte, si ça ne va pas au bout, les gens en dessous, ils considèrent ça comme un échec. Donc après, les négos, elles sont faciles. Ce n'est pas pour dire qu'on a eu tout ce qu'on voulait, mais enfin, globalement, tous les gens en dessous, ils voulaient, ils n'auraient pas fait n'importe quoi, mais ils voulaient acheter la boîte. Et donc ça, c'était en avril, c'était le 9 avril, je me rappelle, parce que c'est l'anniversaire d'un pote. Et Et on est rentré, on a signé, je crois, je crois vers le 10 juin. Donc en gros, en 2 mois, ils ont fait les due diligence et ils ont sorti un peu plus de 200 millions, ce qui est hyper impressionnant. Et ça, c'est la machine japonaise, quoi. C'est les gars, c'est un peu l'armée. Donc
on y va. En ordre de bataille.
Ouais. Tout ça au karaoké.
Avec un peu de whisky ou pas, parce que Stéphane avait.
Avec un peu de whisky, avec saké, tout ce qui va dans un bon karaoké japonais, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'était assez marrant. Ouais.
Donc tu reviens de ce périple à Tokyo.
Ouais.
Tu dis, j'ai vendu la boîte sur Alléluia.
Non, j'y crois pas complètement, moi. Non, parce que c'est quand même un peu particulier. C'est quand même un peu particulier comme truc, quoi. Et puis c'est loin, et puis tu reviens et tu dis, bon, est-ce que ça va vraiment enchaîner?
Est-ce que ça a eu lieu?
Ouais, il y a un peu de ça.
Et puis ils savaient qu'il y avait les Américains, il n'y a rien de signé, donc oui, voilà. On ne sait pas trop où on en est, quoi.
Et alors, cela dit, les Américains, assez vite, ils sortent du process, donc on n'a plus que les Japonais. Voilà, il ne faut pas leur dire. Fallait pas leur dire à l'époque, je veux dire, parce que quand t'as plus qu'un acheteur, le prix c'est plus le même. Donc évidemment, bon, c'est le jeu habituel de voilà, mais.
Tu sais pourquoi ils sortent?
Oui, parce qu'en fait, ils étaient pas du tout au prix, quoi. En gros, ils nous donnent des ordres de grandeur de prix auxquels on n'est pas intéressé pour vendre. Donc on leur dit, écoutez, non, ça sert à rien. Et les Japonais, on était pas sûr, on vendait pas à n'importe quel prix. Donc on leur a donné un peu nos conditions et puis voilà, soit ils faisaient, soit ils faisaient pas. Et eux étaient super motivés, donc ça s'est fait assez vite. Ouais.
T'as dit que la négo était relativement facile. Mine de rien, est-ce qu'il y a quelques clauses sur lesquelles il a fallu un peu batailler?
Il y a eu il y a eu un truc marrant quand même, qui est pas encore la négo, mais c'est quand il vient. Quand Mickey, parce qu'il veut qu'on l'appelle Mickey, donc Mickey en anglais. Quand Mickey vient à Paris, à un moment, on va déjeuner à Le Doyen, dans un 3 étoiles sur les Champs, là. Et bon, il nous sort des vins que j'ai jamais bu de ma vie, même pas depuis d'ailleurs, hein, des bouteilles à des prix qui n'existent pas, mais bon, super bon. Et là, hyper drôle ce qui se passe, c'est très 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 drôle. Il y a un serveur qui, mais ça arrive, mais là, à ce point-là, je crois que c'est jamais arrivé dans ma vie. Il était en adoration devant Price Minister, quoi. Et le mec arrive, et il se trouve qu'il y avait une traductrice qui était là.
J'aurais voulu le préparer, ça aurait pas été assez bien fait.
J'aurais jamais osé, quoi. Là, c'était énorme. Il y a une traductrice qui est là, et en fait, qu'elle est, je sais pas qu'elle est traductrice, mais elle parle anglais et japonais, et je sais pas qu'elle parle en fait français. Et donc le serveur, et personne, donc ils savent tous qu'on sait pas. Et le serveur arrive, et il me dit, oh là là, je trouve ça incroyable de vous rencontrer. Price Minister, c'est vraiment magique. Vraiment, c'est une boîte exceptionnelle. Et alors, il en fait des tonnes et je suis hyper gêné. On est en plus dans un 3 étoiles Michelin. Normalement, c'est pas ça le service. Enfin, je veux dire, c'est sympathique, mais je m'attends pas à ça, quoi. Donc, il est sans aucune retenue. Il me dit, mais est-ce que vous voulez pas m'embaucher? Vraiment, je m'ennuie ici. Moi, je veux travailler pour vous. Vraiment, cette boîte, en plus, c'est la meilleure boîte du monde. Et j'étais comme ça, je disais rien. Et je souris, je dis, ah, c'est gentil, merci. Évidemment, la traductrice, elle raconte tout après à Hiroshi. Enfin, Mickey. Et donc, bref, c'était marrant, quoi. Mais sur le coup, limite, je me disais, ça va être trop, quoi.
Là, t'as pris 20 millions.
Ouais, c'est possible.
J'espère que tu l'as embauché, ouais.
Et à Mickey, on n'avait pas besoin de lui à cette époque-là.
Tu lui parlais en direct ou c'était via la traductrice?
Non, je lui parlais, il parle très, très bien anglais. En fait, j'ai une traductrice, mais il n'y avait pas vraiment besoin de traduire. En fait, elle était finalement là pour traduire quand il y a du français, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc, okay. On était en anglais. Son père avait été prof à Harvard. Lui, il est très anglophone.
Tu disais que cette anecdote avait lieu avant les négos.
Pendant, en fait, ouais.
Et alors, les négos en tant que tels?
Les négos, en fait, on avait pris un banquier d'affaires, mais les Japonais ne voulaient pas le voir. Enfin, Mickey, en tout cas, ne voulait pas le voir. Il disait, moi, je parle qu'aux entrepreneurs. Donc, en fait, les négos, c'était honnêtement pas très compliqué. Le sujet qu'il y a eu, c'est qu'il voulait qu'on s'engage à rester très longtemps.
Longtemps?
Parce que t'es resté 4 ans à la fin. Toute la vie, quoi. Mais d'ailleurs, c'est drôle. Il y a un ancien de Rakuten qui m'a appelé il y a 2 jours, là, qui voulait monter une boîte. Il voulait avoir mon avis et peut-être que j'investisse. Le gars, il a été racheté quasiment en même temps que nous. Il vient de quitter Rakuten. Il a passé 12 ans. Et c'est marrant. Moi, je recommande, quand j'ai des amis qui me posent la question, je leur dis honnêtement, rester plus de 2 ans chez l'acquéreur, ça me paraît compliqué, quoi. Et moi, je suis resté 4.
T'étais loqué 4 ou t'étais loqué moins et t'as décidé de rester?
J'étais loqué 5 et j'ai négocié en 4 ans d'être payé mes 5 ans. Parce qu'en fait, les chiffres étaient très bons. Et donc, ils ont accepté ça et on a délivré plus que ce qu'on avait dit. Donc, ça s'est bien passé. Mais c'est là qu'on voit qu'ils sont sympas d'ailleurs, hein, parce qu'ils auraient pu me dire, si tu veux partir, on ne paye pas la cinquième année, c'est la vie, quoi.
Mais leur burn-out était sur 5 ans, du coup.
Ouais, okay. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a senti que si on négociait trop à la baisse leur burn-out, ils auraient l'impression qu'on voulait partir tout de suite. Et donc, en fait, au lieu de négocier à la baisse leur burn-out, on a négocié à la hausse leur burn-out. En fait, c'est une stratégie de négo un peu de base, mais si tu passes ton temps à négocier le truc que tu veux, tu l'as pas forcément, quoi. Mmh. Et donc, pour avoir le meilleur upfront, en fait, on a négocié le burn-out. On n'a pas essayé de réduire la durée. Un petit peu, ils voulaient 6 ans, on est passé à 5 ans. Mais surtout, on a monté le montant de le burn-out sans baisser le truc du début. Ce qui fait que finalement, il était gros cet burn-out. Et donc, on a vraiment eu envie de l'avoir. Donc finalement, ça fait qu'on est resté 4 ans. C'est vrai qu'au bout de 2 ans, moi, j'étais un petit peu moins motivé. Je leur ai dit, mais ils voulaient quand même que je sois là. Et donc, j'ai commencé aussi à investir en parallèle et à faire un peu autre chose. Mais encore une fois, on a dépassé nos objectifs. Donc, de toute façon, ils étaient très, très contents.
On va parler de ces premiers jours chez le repreneur. Sur la partie négo, est-ce que tu as une autre anecdote, quelque chose que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent?
Non, franchement, les négos, c'est idiot ce que je vais dire. Enfin, c'est pas idiot, mais c'est un peu basique. Mais il faut essayer de faire des trucs win-win. En fait, c'est évident de le dire et puis en fait dans la réalité tu le fais pas toujours et en fait il y a pas mal de cas où finalement c'est pas juste tu veux plus l'autre veut moins ou l'inverse et donc on a accepté pas mal de choses qui nous finalement coûtaient pas trop et ça s'est bien passé. Après ce qui est toujours compliqué, mais on en parlera après, c'est comme c'était quand même beaucoup plus gros que nous, il valait 20 milliards, nous 200 millions, bon c'est 1%. Ça fait que finalement, quand il y avait une grosse décision stratégique à l'échelle du groupe, nous on n'était qu'un petit bout de ça. Et donc ça fait qu'on n'est plus tout seul à la barre, quoi, évidemment. Et on le ressent.
Alors les négos se font. On repasse le jour de la signature et le lendemain. C'est difficile d'arrêter, hein.
Non, mais en plus, nous, on a l'image, là. C'est incroyable, ce clip. Faut le regarder à nouveau. Il est magique.
Ça veut dire quoi, I want to break free?
Ouais, ça m'a fait rigoler parce que dans les questions que tu dis, c'est intégration en groupe, etc. En fait, c'est au bout de 2 ans que j'en ai eu un peu marre. Au début, j'ai trouvé ça très, très exotique. Les Japonais sont très particuliers. Miki, il est très particulier au sein des Japonais en plus. Et donc, c'était un groupe donc très successful. Il avait une sorte de groupe de dirigeants, quoi, où il y avait 80 personnes et Pierre et moi, on en faisait partie aussi. Donc ça faisait que j'ai fait quatre voyages par an au Japon pendant ces 4 ans. Moi, j'adore le Japon. Et puis il y avait plein de trucs assez marrants. Il y avait des calls à pas d'heure le jeudi soir, c'était le vendredi matin pour eux. Et donc souvent j'avais des dîners à la maison le jeudi soir et donc j'étais en caleçon, mais je devais mettre une chemise au-dessus parce qu'il y avait une caméra. Et donc j'allais à l'écran le temps et je parlais le temps d'annoncer mes chiffres comme ça. Et bon, c'est marrant à un moment on en a marre. Mais au début, bon, qu'est-ce qu'on s'est marré, quoi.
On nous a pas mal. En l'occurrence, c'était Stéphane Bobo qui nous parlait de ça. Cette dissonance dans le groupe japonais où en fait on lui avait pas mis de traducteur et tous parlaient uniquement japonais, que ça avait été très compliqué de rentrer dans ce groupe et
de choc un petit peu culturel. Tu l'as ressenti toi ça?
Ah ouais, mais des anecdotes j'en ai à l'appel d'ailleurs, c'est marrant, ça me rend là-dedans. Ouais, ça passe de... Déjà, non, en regardant ce clip, je me rappelle... Enfin, en fait, bon, je comprends mieux pourquoi je l'ai choisi, parce que c'est de être inconscient, mais il y avait un truc du cleaning. En fait, il avait un truc, Hiroshi Mikitani, il disait, il faut se rappeler tous les jours qu'au début, on était une petite équipe et qu'il faut faire tout ce qu'on peut avec nos moyens. Et donc,
C'est une bonne vision.
Non, mais les principes sont vachement bons. Et tous les lundis matin, on était censé nettoyer les pieds de notre bureau en prenant une petite lingette et de frotter de haut en bas les pieds du bureau, comme fait assez bien
Freddie Mercury.
Lui, il mettait pas de chemise.
Ouais, nous, on devait garder une chemise. Mais on devait mettre un name tag. Et donc, c'était assez drôle. Il fallait qu'on ait tout le temps notre name tag, donc un petit truc avec notre nom. Donc, bon, quand t'es le patron fondateur de la boîte, normalement, les gens te reconnaissent à peu près. Mais j'avais mon petit name tag, ça me faisait rigoler. J'avoue que j'ai jamais fait le cleaning des pieds de ma table. Ça, j'ai pas réussi. Ça m'a un peu dépassé. Mais bon, c'est marrant, quoi. Il y avait toutes ces idées, tous ces petits rituels. Et il y en avait qui nous ont vachement plu. Par exemple, le lundi matin, on devait faire l'Asakai, donc le meeting du matin. Et ça, on l'a fait. Et alors.
C'est quoi? L'Asakai, ça veut dire quelque chose ou?
Asakai, ça veut dire, les nippophiles vont me corriger sûrement. Mais, j'ai un doute maintenant. Je crois que ça veut dire juste le lundi matin, la réunion, un truc comme ça. Et j'ai un petit doute maintenant. Mais en gros, donc le lundi matin, on faisait une réunion. Et il y a plein de boîtes françaises qui le font maintenant. Je dis pas que c'est à cause de nous, mais ou grâce à nous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas un truc très très classique. Et tous les lundis matins, là, on parlait des actualités de la tech en général. Et puis des actualités des équipes, évidemment. Il y avait une équipe qui venait présenter un truc. Les nouveaux venaient chanter. Ça, c'était une tradition qu'on avait depuis avant.
De chez vous?
Ouais, de chez nous, que j'avais hérité des États-Unis.
Et qui rentrait chez Rakuten?
Alors, pas forcément au niveau groupe, mais je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui font ça maintenant. Mmh. C'est assez marrant. Et pour la petite histoire, moi, ça avait démarré aux US. J'ai bossé un an aux US. Et quand j'étais allé, on m'avait expliqué qu'il fallait que les nouveaux chantent. Donc, moi, j'étais arrivé, j'adore chanter, j'avais chanté pendant 4-5 minutes, quoi. Et puis, les mecs m'avaient dit, non, mais en fait, c'était une blague, en fait. On avait dit ça, mais personne jamais n'a jamais chanté. J'ai dit, bah, dommage, j'adore. Et j'ai gardé ça après chez Price.
Nous, on avait, nos stagiaires ont du talent, et pour leur dernier jour, ils nous faisaient, alors, au choix, un talent. C'était génial.
C'est hyper sympa.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est rigolo.
Les premiers jours, enfin, dernier jour, c'est sympa, mais le premier jour, je trouve ça encore plus utile parce qu'en fait, ça casse la glace. Et puis, tu te rappelles mieux des gens, quoi, parce que tu te rappelles que machin, c'est celui qui a imité je sais pas quoi ou qui a chanté je sais pas quel truc. Donc, ça, c'était assez sympa. Donc, ils nous ont apporté plein de choses marrantes. C'est vrai aussi que, voilà, j'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre de ma vie, en fait. J'ai un problème avec l'autorité, mais bon, j'aime bien faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire, quoi. Donc c'était bizarre de bosser pour quelqu'un d'autre.
Parce que quand tu vends ta boîte, évidemment, tu sais que tu la vends, tu sais qu'elle t'appartient plus, mais du coup, c'est dans des petits détails comme ça où tu vas ressentir que c'est effectivement plus chez toi.
En fait, typiquement le truc qui m'a agacé, c'est en fait, et c'est normal, c'est un peu toujours pareil, je crois, c'est les incohérences. Et en fait, parce que ce qui est cohérent au niveau du patron de la boîte de 20 milliards, il n'est pas forcément au niveau du patron de la boîte de 200 millions. Et même si tu prends si tu te mets à sa place, en fait, ça t'agace parce que il va te dire, bon, là, on s'en fout des bénéfices, faut faire de la croissance, donc embauche à fond. Alors toi, t'embauches à fond. Et 6 mois plus tard, il te dit, bon, là, au Japon, là, ça a freiné, là, la croissance, donc on a un problème de bénéfices. Maintenant, faut que tu fasses le maximum de bénéfices dans les 3 mois qui viennent. Mais je viens d'augmenter les bénéfices de 50%, ce que tu m'as dit de faire. Ouais, non, mais là, on peut pas.
Donc, et ça doit porter
du coup. Donc je fais quoi? Je vire en fait les 50 ou je sais pas quoi, les 150 personnes que je viens d'embaucher. Bah ouais. Ah d'accord. Et là moi je peux pas parce que
c'est une question de culture.
Et humainement, humainement c'est pas possible. En plus nous on gagne de l'argent à ce moment-là, donc tu vois. Enfin, je dis pas qu'une boîte qui gagne de l'argent peut pas virer de gens. C'est plus compliqué que ça. Mais à un moment, on n'a pas embauché ces gens pour rien. On les a embauchés pour aller créer de la valeur.
Des fois,
pour
tu les as débauchés.
Ouais, je leur ai fait prendre des risques aussi. Et donc ça assez vite, c'est vrai que ça me fatigue parce que ça fait que je fais des choses qui correspondent pas à, qui sont pas cohérentes, voire parfois même qui limite vont frotter un peu mes valeurs, quoi, parce que aller embaucher des gens pour après 2 mois après leur dire que tu peux pas les garder alors qu'en fait ils ont fait ça, c'est compliqué.
Et quoi. Du coup, dans ce cadre-là précis, t'as été obligé quand même de suivre les directives?
Non, parce qu'en fait on avait un contrat qui disait que et ça c'était bien rédigé, qui disait qu'en fait l'earn-out, il était conditionné à l'atteinte d'objectifs, sauf si les Japonais nous imposaient des choses, des choses stratégiques. Et donc, en fait, je leur ai dit non, désolé. Je leur ai dit, moi, je dirige ma boîte de manière autonome, ou alors vous me payez les 5 ans tout de suite. Et donc, pendant 2 ans, ils ont tenu. Et puis, au bout de 2 ans, ils ont dit non, quand même, on voudrait que tu fasses un autre truc. Je dis, bah, ok, mais à ce moment-là, on fige les 5 ans. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mes 5 ans. Mais ça veut dire, objectivement aussi, qu'au bout de 2 ans, après, moi, j'étais moins motivé
parce que investi, c'est un peu tendu.
Et donc, j'ai phase out, j'ai commencé à faire autre chose à côté. La boîte a continué à très bien marcher, mais honnêtement, on était moins agile, quoi, moins réactif.
Vous étiez 5. Les 5 vivent ce moment de la négo et ce moment de l'après de la même manière.
Pas
J'imagine
forcément.
Que vous en avez parlé.
Ouais, bon, on était chacun à des stades différents de notre vie, mais enfin, c'était quand même assez homogène. Ouais, on bossait beaucoup, de toute façon, on se voyait beaucoup. On était globalement, très potes, certains particulièrement beaucoup. Pierre Kring, je continue à le voir plusieurs fois par semaine maintenant et on fait plein de vacances et de boulot ensemble. Olivier, Mathieu, je le vois aussi beaucoup, puis c'est mon cousin.
Coucou Olivier.
Salut Olivier.
C'est mon co-anime sur 40 nuances de Next.
Et après, Justin et Philippe, on se voit moins, mais on s'apprécie beaucoup aussi. Donc on était très proches. Après, c'est vrai que en fait, peu à peu, derrière, on devient un petit peu moins proche, en tout cas professionnellement, assez logiquement, puisque chacun, on s'investit un petit peu moins dans le boulot. Et donc, on continue à venir bosser et tout, hein, mais on bosse un peu moins tard, un peu moins le week-end. Et donc, voilà, ça joue un peu. Mais on a, je pense, tous les 5 vécu le truc pareil, à savoir que c'était vraiment intéressant, c'est une belle opportunité. Et puis qu'évidemment, derrière, il y avait aussi parfois un peu moins de motivation. Après, c'est quand même un peu différent, je pense, pour moi et pour les autres, parce que moi, j'étais vraiment en première ligne avec le Japon, donc j'y allais souvent, donc j'étais moins là aussi.
Et en equity, vous étiez tous les 5 pareils ou non, il y avait des vraies différences?
Non, alors en fait, au départ, on était 3, Pierre, Nathalie et moi, puis Nathalie est partie assez vite. Pas Nathalie, pas ma sœur, hein, Nathalie, quelqu'un d'autre, Nathalie Gao. Et puis ensuite, il y a eu Olivier est arrivé très vite et Justin. Et en fait, Philippe, il est arrivé plus tard, c'était notre directeur financier, mais disons, c'était les cinq piliers à la fin. Et donc, Pierre et moi, on avait, j'avais un peu plus, mais on avait des montants comparables et les autres un petit peu moins.
Ouais. Ok.
Et du coup, parce que ça peut aussi, au moment des négos, je reviens. Alors du coup, là, c'est moi qui suis pas le cadre de notre format. Mais au moment de la négo, comme tu le dis, des fois, on n'est pas tous au même moment, au step de vie. Il y a personne qui dit non, on n'y va pas, on continue. On fait 15 millions de bénéfices par an. On peut encore faire grandir et se débrouiller.
Non, on était assez alignés sur la vente parce que, en fait, on voyait, on pensait que c'était un bon timing. Je pense qu'on aurait pu vendre plus cher plus tard maintenant. Après, les valos, en plus, aujourd'hui, sont rien à voir. Donc, les multiples sont pas du tout les mêmes.
Pour l'époque, c'était un sacré...
C'était une très belle vente pour l'époque, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une boîte de cette taille-là, elle vaudrait plus d'un milliard. C'est drôle, hein. Après, il faut dire aussi que l'e-commerce est devenu tellement plus gros. Le marché est beaucoup, beaucoup plus gros maintenant. C'était quand même il y a 11 ans, quoi.
Et est-ce que c'était des moments de vie qui vous ont fait vendre ou c'est de dire, il y a peut-être un concurrent qui va arriver aussi, il faut savoir prendre son gain maintenant et c'est une belle opportunité?
Ouais, ça faisait 10 ans qu'on avait monté la boîte, donc c'était un cycle. On avait du mal à s'internationaliser, on avait lancé l'Espagne, mais ça restait encore petit. C'est un des trucs qu'on n'a pas bien fait chez Price, c'est l'international. Pas très bien, il y avait un peu trop tard en plus. Et donc finalement, c'était assez cohérent. Et puis Amazon était en train de monter, on était plus gros qu'eux quand on a vendu. On était le premier en France.
Vous le sentiez arriver fort.
Ils avaient tellement de moyens. Ils étaient prêts à perdre tellement d'argent durablement sur un pays. Ce qu'ils ont fait en France. Donc, avec des pratiques pas toujours très correctes d'ailleurs. Ils ont été, c'est une boîte extrêmement agressive de toute façon.
Que vous avez ressenti en tant que concurrent ou là c'est une observation que tu fais?
Non, quand ils sont lancés en France, ils ont contacté en se faisant passer pour des... Leurs salariés avaient pour consigne de commander depuis chez eux sur notre site. Avec des comptes, pas des adresses Amazon évidemment, auprès de nos vendeurs professionnels pour les contacter ensuite, ce qui est complètement illégal, mais ces boîtes-là de toute façon respectent la loi quand elles ont envie.
Au pire, il y a un procès, quoi.
Et puis voilà, et puis ils payaient pas leurs impôts, et puis enfin ils payaient pas leurs impôts. Ils étaient tous domiciliés au Luxembourg, donc
une vraie concurrence déloyale.
Ouais, mais bon, les politiques s'en foutaient, et puis ils ont mis 10 ans à comprendre. Hein. Enfin, maintenant, on parle un peu des GAFA, mais à l'époque, tout le monde s'en foutait. Et donc, à un moment, bon, tu vois, tu t'en parles, ouais. Et puis tu comprends que ça va pas changer, donc ou pas tout de suite. Et donc, tu te dis, voilà, comment ça va se jouer dans les années qui viennent. Et clairement, je pense qu'on a eu raison de vendre. Encore une fois, peut-être 2-3 ans plus tard, on aurait gagné plus. Mais moi, j'avais envie de faire un peu autre chose aussi. Donc, on était tous contents.
T'as dit les deux premières années étaient excitantes. Finalement, tu vas rester 4. Ces 2 ans, ils sont longs. C'est long, 2 ans.
Ouais, c'est long. C'est long parce que toute ma vie, j'ai fait à peu près exactement ce que j'ai voulu faire, quoi. Donc,
là, tu te sens contraint.
Et de plus en plus. Ah bah ouais, je vais bosser alors que j'ai pas envie, quoi. Mmh. Alors, j'exagère, j'étais quand même... Bon, de toute façon, je suis toujours assez heureux, je suis un peu comme ça, moi. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me disais, tiens, aujourd'hui, je préférais faire autre chose. Alors parfois, j'allais pas au bureau en même temps, hein. je m'embarrassais pas trop de ça. Mais encore une fois, les résultats étaient très bons, donc je faisais le job, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai quand même...
Non, mais ce que tu vas chercher quand tu montes ta boîte, c'est une sorte d'enthousiasme. Quand tu l'as plus, même si tu atteins les objectifs, c'est quand même moins.
Ouais, mais ce qui s'est passé en fait, hein, c'est que moi je voulais être chanteur. Donc j'avais de toute façon décidé d'arrêter de bosser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait ces 5 ans d'earn-out, bon, qui ont fait que 4 ans, en fait, je suis devenu investisseur. En fait, j'ai utilisé cette période pour apprendre ce nouveau métier. J'avais cofondé Isaïe juste avant, avec quelques amis, quelques associés, le fonds Isaïe et.
Avec Jean David.
Et puis, Jean David nous a rejoint, ouais, juste après. Il dirige le fonds, enfin, ouais. Juste après, ouais, ouais, il dirige le fonds depuis 10 ans, il est génial. Mais on était avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, avec Stéphane Trépose, avec Auriel Loyon au début, et Christophe Reynaud. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé Kernel, la holding avec laquelle j'investis, avec Pierre Krings, juste avant deux ans, en fait, avant la vente, au moment où on voulait aller en bourse, parce qu'en 2008, on a voulu aller en bourse, et puis les marchés se sont effondrés, donc on y est pas allé. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais pas faire l'Olympia en même temps que diriger la boîte là, mais c'était mon idée à l'époque, hein, vraiment. Donc je me dis bon bah à ce moment-là, vu que de toute façon faut que j'investisse ce que j'ai gagné, autant que je le fasse correctement. Et donc en gros je suis devenu à peu près mi-temps investisseur. Et donc j'ai appris ce métier qui m'a beaucoup intéressé. Et donc c'était pas du temps perdu, donc je m'ennuyais pas. En fait j'étais moitié PDG de, enfin patron de Rakuten Europe, moitié investisseur. Et puis à la fin quand j'ai arrêté j'ai quitté Rakuten et Price Minister, j'étais plus que investisseur. Mmh. Et puis maintenant je suis investisseur chanteur mais ou chanteur investisseur.
C'est rare.
C'était intéressant d'apprendre ce métier.
Parmi les boîtes dans lesquelles tu investis, alors je sais pas si c'était pile cette période, Doctolib si je dis pas de bêtises.
Doctolib, ouais, j'ai investi fin 2014. Ouais. Mmh. Et on a un board demain. Ouais.
Bel investissement, a priori.
Ouais, super boîte, super utile. Une boîte super utile.
Particulièrement depuis un moment, là.
Ouais, c'est vachement intéressant. J'apprends plein de choses. J'espère que je contribue aussi un peu. Et puis bon, la boîte est vraiment intéressante. Ouais.
Donc, 2 ans où finalement tu ne t'ennuies quand même pas, tu investis, tu rencontres d'autres entrepreneurs. J'imagine c'est aussi manière de reprendre de l'enthousiasme avec des yeux qui brillent autour de soi. Et arrive le jour J, la fin des 4 ans, tu vas officiellement claquer la porte.
Non, je la referme gentiment.
Oui, pardon.
On est restés bons amis.
Tout à fait.
Et est-ce qu'il y a un pot de départ?
Pardon, ouais, le moment où...
Comment ça se passe?
Ouais, ce dernier jour, il se passe quoi?
En fait, ce qui était sympa, c'est que je savais que pour partir, les Japonais, ils me laisseraient partir en avant. Que si la transition était assurée. Pierre Krings voulait partir aussi, mon associé du début et mon meilleur pote. Et donc en fait, ce qu'on s'est dit, et Olivier, lui, il était cofondateur directeur marketing, Olivier Mathieu, et ça l'intéresse de devenir patron. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait monter Olivier, et notamment vis-à-vis des Japonais. Et donc en fait, il est devenu PDG quand je suis parti.
Et c'était génial. Il restait même encore.
Il restait, je crois. 4 ans, ouais, jusqu'en 2018. Ça, ouais. Lui, il avait envie de faire ça. Il n'avait pas cette expérience-là avant. Les Japonais lui faisaient confiance et ils avaient raison. Et donc c'était parfait. En fait, donc ça a été hyper
assez fluide,
hyper smooth, ouais. Hyper fluide. On a fait un pot de départ, comme on faisait pour tous les gens qui partaient. De toute façon, on a toujours fait plus des pots de départ parce que c'est sympa.
Et t'as chanté pour le dernier jour?
Je sais plus. Probablement, ouais. Quand je peux, je chante, de toute façon.
Tu as pas le souvenir de quand tu fermes pour la dernière fois la porte de la boîte?
Non, ce dont je me rappelle, c'est que ce qui m'a manqué, c'est après, ça m'a manqué de... Enfin, je me suis senti un peu seul. Et en fait, il y a un truc assez génial quand tu as monté une boîte, c'est que tous les jours, les jours où tu vas au bureau en tout cas, tu vois plein de gens qui te sont plutôt reconnaissants en fait. En gros, si t'es à peu près sympa, ils se disent, voilà, le gars qui a monté la boîte dans laquelle je bosse, a priori, bon, ils étaient contents d'être là, sinon ils seraient partis. On est dans un secteur où il y a le plein emploi dans la tech. Donc, je veux dire, les gens, quand ils
sont là,
boîte,
c'est qu'ils sont contents d'être
voilà,
là.
Voilà, exactement. Donc, a priori, ils sont contents que t'aies monté la boîte, puis ils sont contents d'y bosser. Donc, ils sont contents de te voir. Donc, en fait, tu passes ta journée à voir des gens qui sont plutôt contents d'être là, contents de te voir, souriants, plutôt sympas, parce qu'en général, on embauchait plutôt des gens qu'on trouvait sympas. Et puis, en général, aussi intelligents, honnêtes, etc. Donc, en fait, tu passes ta journée à recevoir de l'amour. Et bon, à en donner aussi. Et donc, quand t'as plus ça, en fait, ça te manque un peu. Après, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de liberté. J'ai adoré la liberté. Mais c'est vrai que ça a fait un vrai changement.
Et une nouvelle vie va s'ouvrir à toi. Alors, je voudrais te faire découvrir Beer Foot. Alors, c'est Shimon et PKM, je ne sais pas si tu connais.
C'est le tube de l'été 2022, non?
Ouais, on ne l'a pas sorti encore. D'ailleurs, c'est...
Ah, on l'a en première.
Ouais,
j'adore.
Exactement. Je pense que ça sort en février, a priori.
Donc là-dessus, vous êtes deux.
Ouais. C'est à écouter dans quel contexte?
Partout.
Ouais, c'est pas mal de la musique pour danser. Mais moi j'adore l'écouter un peu partout, mais ouais.
Moi, je vois bien ça pieds nus sur une plage avec du gros son. À chaque fois que je veux renvoyer, il y a une nouvelle note qui arrive. Je me dis, c'est pas le moment de. Mais du coup, peut-être pour faire la transition, peut-être hasardeuse, mais c'est le genre de musique que tu peux danser avec beaucoup de monde autour de toi et malgré tout, la vivre seule.
Ouais. Ouais, alors je vois
tu peux dire venir. Tu peux dire que la transition est hasardeuse.
J'avoue que mais je comprends où tu veux en venir. Ouais, mais je suis sur ce track quand même parce que tu vois c'est sympa pour moi d'entendre Simon il est Shimon, c'est son nom d'artiste, mais il s'appelle Simon. Il joue dans beaucoup, beaucoup d'endroits déjà incroyables, dans des grands festivals. Donc, il a déjà joué certains de nos tracks. Et donc, j'ai déjà vu 2-3 000 personnes danser sur mes chansons. Donc, mais en revanche, enregistrer comme ça dans un studio, non. Donc, ça me fait quelque chose. C'est sympa. En gros, je l'ai mis là sur l'après. Pourquoi? Parce que c'est l'idée de ce track. En fait, donc, c'est Barefoot, c'est B-E-A-R comme un ours. En fait, c'est parce que j'ai eu l'idée de ce track en août. J'étais à côté du pôle, pas loin du pôle Nord.
J'ai essayé le beer pong, je me suis dit beer foot, ça marche, un nouveau truc, on avance. Pardon, excusez-moi.
Pas de souci. J'étais pas loin du pôle Nord, sur un Zodiac, et on avait un ours polaire à 15 mètres de nous. Et j'ai vu, parce que tu peux pas t'approcher trop près d'un ours polaire, sur Terre, mais dans l'eau, il nage, mais il nage pas très vite, et il y a peu de chances que tout d'un coup, il se mette à nager vers le bateau. Donc on est à 15 mètres, et on entend l'ours polaire qui marche, et donc ça fait et donc je me suis dit tiens on pourrait faire un track avec ça et donc j'ai laissé un petit message à Simon. À l'époque on captait pas et alors on l'entend en fait après le pool, enfin bon bref,
vas-y on t'écoute
et donc en gros c'est pour la petite histoire du track et donc en gros après je me dis tiens moi c'est un peu un pou, c'est pompon pompon et donc l'idée c'est on fait un track où il y a le pou et puis à un moment le pou ralentit. On n'entend plus que le pouls, bon, ça arrive plus tard dans le track. Et puis on entend un électrocardiogramme quelqu'un qui meurt quand ça fait... et après finalement il meurt pas, ça repart et voilà. Et donc l'idée de ce track c'est ça. Et donc comme tu disais le un peu l'après, pour moi ce track c'est ça, c'est un peu la renaissance. Et puis ça incarne l'après puisque bon,
c'est aussi
faire des voyages au pôle Nord quoi. Donc et puis c'est faire de la musique. Donc ouais l'après c'est parfois c'est une grosse remise en cause en fait hein. Donc je citais Freud au début de l'interview, c'est ça, c'est en gros à un moment tu te retrouves à te dire tiens mais en fait c'est quoi le bonheur, pour, après quoi je cours, et tu te poses plein de questions. Et là, il y a beaucoup de gens qui en fait ont peur de ces questions-là. Et en fait, quand ils les prennent comme ça, pour éviter de faire face à ce questionnement, ils se noient dans l'activité. Et parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. La plupart des gens, ils n'ont pas le choix. Ils doivent travailler pour se nourrir et pour payer leur loyer. Mais si on regarde la plupart des gens qui pourraient ne pas travailler, en fait, la plupart travaillent aussi. Et on peut s'interroger sur pourquoi ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas besoin de l'argent qu'ils gagnent.
C'est le social, c'est...
Alors, chacun a sa réponse. Ouais. Ça peut être le social. Moi, personnellement, j'ai plein d'amis que j'adore et je préfère, au fond, voir mes amis que voir les gens dans le cadre du travail, même si dans le cadre du travail, je vois parfois des gens géniaux. Et c'est aussi pour ça que je continue à bosser, d'ailleurs. Mais en revanche, je ne veux pas bosser... je ne veux pas bosser 10 heures par jour parce que je trouve que je préfère bosser une heure par jour ou voire deux, ça dépend. Il y a des jours je bosse 10 heures par jour. Parfois, je bosse pendant 3 jours comme un fou. Mais j'aime bien vraiment choisir. Et donc, clairement, je vois des gens qui se mettent à arrêter de bosser, se retrouvent complètement vides comme ça, face à ce vide, aux questions qui, pour moi, ne font pas vraiment de sens, mais que la société nous... Notre culture, en fait, nous impose un peu comme à quoi je sers, quel est le sens de la vie, quelle est ma mission, qu'est-ce que la vie après la mort, etc. Pour moi, c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être parce qu'elles font pas de sens, en fait, parce que la vie n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. Pour moi, on n'est pas là pour un sens particulier. On est là pour essayer d'être heureux et rendre, si possible, les gens autour de nous heureux, voire même les gens un peu plus loin autour de nous. Mais voilà, donc.
Mais ça commence par soi-même.
Je pense que ça commence par soi-même. Et donc, en fait, il y a des gens qui, pour arrêter de se poser ces questions, replongent dans l'activité, se remettent un but en disant « Ok, j'ai fait une boîte qui valait tant, je me rends compte que ça ne m'a pas rendu complètement heureux, alors je vais faire une boîte qui vaut 10 fois plus. » Je vais dire « Eh oh, pourquoi 10 fois plus ?»
Pour être 10 fois plus heureux, voyons.
Il y en a, tu as envie de leur dire ça. Après, c'est leur choix et peut-être que c'est bien pour eux. Moi, personnellement, je me suis dit « Ok, là, j'ai envie de réfléchir à vraiment ce qui me rend heureux et c'est plutôt avoir du temps pour moi, voir plus ma famille, mes enfants, mes potes, faire de la musique, faire du sport, lire, voyager. »
Après, il y a 10 000 raisons d'entreprendre, 10 000 raisons de se relancer et quand même pour beaucoup, il y a ce côté un peu adrénaline qu'on peut d'ailleurs trouver par ailleurs au-delà de l'entrepreneuriat.
Mais alors, j'ai plein d'amis qui remontent des boîtes et souvent, je trouve que c'est génial. Je pense juste qu'il faut savoir pourquoi on le refait. C'est-à-dire que pourquoi on remonte une boîte, ça peut être parce qu'on veut résoudre un problème hyper important, parce qu'on veut aider les gens en leur apportant un nouveau service, parce qu'on veut se prouver quelque chose, parce qu'on veut revivre des moments d'adrénaline. Tout ça, de toute façon, chacun fait ce qui est bon pour lui. Enfin, j'espère, c'est ce qu'il faut faire. Mais je pensais bien, en tout cas, de se poser la question. Ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, c'est l'occasion, quand on vend une boîte, de se poser plein de questions. Et je pense que c'est dommage de sauter cette étape-là.
Et justement, l'erreur, est-ce qu'elle n'est pas, et ça arrive très facilement, parce que tu quittes ta boîte à ce moment de vide que tu évoques, que tu as envie de combler. Le vide, souvent, on a envie de le combler comme un silence. Mmh. C'est vrai que souvent, on a envie de combler le silence. Et du coup, on peut peut-être repartir trop vite dans le choix.
Alors, c'est ce que j'ai fait aussi, hein, parce que je quitte Price Minister en 2014. Et là, je me dis, bon, en fait, j'ai pas vraiment envie de remonter une boîte. Mais si je devais vraiment remonter une boîte, il faudrait que ce soit avec mes meilleurs potes, qu'elle puisse valoir 10 milliards, parce que tout le monde parlait de licorne, moi je vais faire une décacorne, et surtout qu'elle soit utile et globale. Et donc on a embauché 12 personnes, et on a, avec mes trois meilleurs potes de l'époque, et on a en fait embauché une équipe pour chercher l'idée de notre prochaine boîte. Et au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas monter de boîte. Donc on a tout arrêté. Heureusement, la plupart des gens qu'on a embauchés, aucun nous en a voulu. Ils ont tous remonté des boîtes dans lesquelles on a investi, et la plupart des boîtes marchent très bien. Donc tout ça est plutôt très sympa. Mais c'est vrai que voilà, moi je recommande maintenant de prendre son temps et puis faire les choses quand on les sent vraiment complètement, parce que finalement, moi à l'époque je me rends compte, j'ai monté une boîte de peur de m'ennuyer. Il faut jamais faire un truc de peur de
mauvaise raison.
Ouais, faut faire des choix positifs. Et dans la vie maintenant, à chaque fois que je suis en train de faire un choix un peu négatif, au sens où je fais quelque chose parce que j'ai peur de faire autre chose
face à une contrainte.
Et il faut faire quelque chose parce qu'on en a envie, quoi. Quand on peut se le permettre, encore une fois, il y a des fois, on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, bon.
Ok, très bien.
Alors, Pierre, pour parler de cette nouvelle vie qui, à ce moment-là, s'offre à toi, on a une question de notre partenaire chez Neuflys OBC, Christine, que tu connais très bien, que je te propose, du coup, peut-être de nous présenter.
Avec plaisir. Donc, Christine Boucher. Christine, je la connais depuis 12 ans. Elle est banquière privée chez Neuflys OBC et on s'est rencontrés quand J'étais en train de lever des fonds et j'avais besoin en parallèle de lever un peu d'argent à titre personnel.
Quand Pierre, tu connais quelqu'un comme ça qui t'a suivi pendant autant de temps, est-ce que tu ne crains pas la question qu'elle va te poser ?
Non, elle est sympa Christine. Au contraire, j'ai hâte.
Écoute Pierre, je m'intéresse toujours non seulement évidemment à la partie, j'allais dire, plus corporate de mon métier, puis il y a un aspect plus privé qui rentre dans notre champ de banque privée. Et c'est vrai que concernant les entrepreneurs, dès lors qu'ils vendent leur société, il y a toujours un moment plus compliqué, en tout cas que j'appelle le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que tu pourrais me dire effectivement de la tienne ?
Alors moi, je le ressens surtout quand je fais de la musique, ça. Mais sinon,
comment as-tu vécu l'après ?
Plus sérieusement, ouais, c'est bon, c'est un thème. Enfin, on peut en parler pendant des heures. Il y a même régulièrement des gens qui m'appellent en me disant tiens, comment tu l'as vécu ? Parce que je suis en train de le vivre, etc. C'est en gros, on se donne un objectif. On se dit qu'une fois qu'on l'aura atteint, la vie sera vachement bien. Pour peu qu'on se le dise, la plupart des gens réfléchissent même pas à ça. Ils disent juste, je veux développer ma boîte, faire un gros truc, peut-être le vendre un jour, etc. Et le jour où ça arrive, évidemment, on se rend compte que, en fait, c'est pas ça qui rend heureux. Et donc, soit on est, enfin, parfois, on se dit juste que c'est pas grave et on se remet un autre objectif et on repart dans une course et on répond finalement pas tellement à la question. Soit on se dit, bah, tiens, mais en fait, faut peut-être que je réfléchisse un peu au sens de ma vie.
Pourquoi ?
En tout cas, voilà, pourquoi je fais ça et à quoi ça me sert. Et c'est l'occasion de citer Freud, parce qu'on cite pas assez Freud. Et Freud, il disait, alors j'ai pas les mots exacts, mais il disait, j'envie mes patients qui sont, je sais pas quel terme il employait, mais qui ont de la fortune, qui ont de l'argent, parce qu'au moins ils savent que c'est pas là-dedans qu'on doit aller chercher le bonheur. Et ils vont chercher, ils peuvent dès maintenant aller chercher ailleurs. C'est un peu ça, c'est-à-dire que tant que t'es tendu par la quête la recherche d'un objectif, l'atteinte d'un objectif. Tu penses que ce truc-là va t'apporter quelque chose, et donc finalement, c'est un côté assez reposant. Et en fait, bah, une fois qu'on l'a atteint, voilà, on doit aller chercher ailleurs. Et ça peut créer un petit vide. Mais c'est intéressant parce que ça permet de se poser les bonnes questions.
Je me rappelle d'un entrepreneur qui avait fortement réussi. Sa boîte valait 1 milliard. Tout le monde disait de lui que c'était une grande réussite. Et puis en off, je lui dis, mais du coup, par curiosité, est-ce que t'es heureux ? Ça m'a toujours questionné. Et il m'a dit, bah, alors, oui, on dit que j'ai réussi. J'ai quand même des gros regrets. Ma femme m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus. J'étais pas 500 millions.
J'étais quoi ?
J'étais pas 500 millions après.
Ah, ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Après, je pense pas que ce soit. J'espère qu'ils ne sont pas partis et qu'ils ne lui parlent pas plus juste parce qu'il a réussi. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où il ne faut pas se tromper d'objectif, quoi. Et clairement, l'argent, de toute façon, a une rentabilité décroissante. C'est-à-dire que, et dans toutes les études sur le bonheur, on le voit, c'est plus compliqué d'être heureux quand tu n'as rien, ça c'est sûr. Mais une fois que tu as de quoi subvenir à tes besoins de base et voir un peu plus, l'argent que tu as en plus, il contribue que marginalement à ton bonheur. Voire il y a des gens pour lesquels ça ne contribue pas au bonheur parce que ça leur crée plus d'angoisse pour savoir
la
comment s'en
perdre.
Occuper. Ouais, les banquiers comme Christine les appellent tous les jours, ils ne savent plus quoi faire. La peur de perdre, il faut quand même être un peu mal cortiqué, je pense.
Comme vous avez vu, Cash Out, c'est une émission en musique, y compris avec les sonneries de téléphone de Christine.
Ça, c'est ta sonnerie aussi ? Ah ouais, mais t'es un orchestre à toi toute seule. C'est incroyable. J'espère que t'es pas en open space, parce que t'imagines si elles sont 10 comme ça, là.
Eh ben, merci, Christine.
Bonne continuation.
Merci.
En tout cas, et à très bientôt, Pierre.
Salut.
Merci.
C'est toujours plus facile d'avoir un avis après coup, mais justement, si tu devais revendre Price Minister, est-ce que tu ferais quelque chose différemment ?
Non, mais moi, je ferais rien de différemment de ma vie. Je suis tellement heureux. Et de toute façon, c'est bon, c'est une manière de pas répondre à la question, évidemment, mais c'est vraiment pas une question que j'aime me poser parce que
c'est
être dans le passé, ça sert à rien. Mmh. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Puis surtout, vraiment, j'ai beaucoup de chance, quoi. Donc et quand on change quelque chose, on ne sait pas les conséquences que ça a derrière.
Donc, l'effet papillon.
Je veux pas prendre, exactement, je voudrais pas prendre le risque. Mais après, si précisément, j'analyse d'un point de vue business, il y a plein de choses que je ferais différemment aujourd'hui et j'espère mieux. Mais peut-être qu'à l'arrivée, ce serait pas mieux finalement. Donc,
Alors, c'est une question qu'on aime bien poser aussi dans l'émission. Est-ce que t'as eu un coup de folie suite à la vente ? Un achat un peu foufou ? On sait que t'as acheté ta liberté, entre guillemets, mais.
J'ai acheté. Non, achat, je sais pas. Bon, j'ai acheté une île. C'était pas C'était pas, enfin, c'est un peu fou d'avoir une île, mais ouais, j'en rêvais depuis que j'étais gamin, en fait.
Oh, le kiff.
Tu peux nous en parler?
Ouais, genre, ça, j'en parle pas trop, c'est un peu privé, enfin, c'est privé. Non, mais j'ai, en fait, quand j'étais, j'ai, limite, j'ai monté une boîte pour pouvoir un jour acheter une île. C'est,
okay.
C'est limite un peu ça, parce que, j'ai, bon, c'est aussi que je voulais bosser avec les gens que je choisissais et avoir le moins de contraintes possible, tout en étant à fond dans ce que je faisais, donc ça correspondait à ça. Mais ouais, j'ai voulu avoir un petit endroit à moi, exactement. Ouais. Et là, bon, et après, je fais des choses variées. Je suis pilote d'hélico. J'ai acheté un hélico que je pilote. J'étais pilote d'avion avant aussi. Je fais pas mal de trucs comme ça, mais j'ai pas une folie. Disons vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est de faire que des choses que j'aime faire.
Quand ça t'intéresse, t'es là.
De vivre pleinement. Sans
ouais,
contrainte.
Avec les gens que j'aime, en essayant d'avoir un impact positif sur les autres, ou en tout cas à minima de pas les emmerder, ce qui est déjà pas mal. Ouais, donc voilà, c'est ça que j'essaye de faire et d'être là pour mes amis et pour ma famille quand ils en ont besoin. C'est des principes de base, mais finalement. C'est déjà pas mal, quoi. Si on fait vraiment bien, si tout le monde faisait vraiment bien ça, je pense déjà ce serait pas mal. Après, là encore, hein, j'ai la chance d'avoir, dans une situation où j'ai pas beaucoup de, disons, je peux avoir des questionnements existentiels, même si je les évite, mais je veux dire, voilà, j'ai pas besoin de je me réveille pas le matin en me demandant comment je vais gagner ma vie pour me nourrir et pour me loger. Mais c'est vrai que malgré ça, il y a pas mal de gens qui pose pas ces questions de base, je trouve. Et pour moi, c'est ça, c'est être heureux, pas avoir trop de contraintes qui m'embêtent, aider les gens que j'aime, leur faire vivre des bons moments aussi. J'aime bien créer des moments sympas, que ce soit des voyages.
Dans le partage.
Ouais, voilà, ça peut être des beaux moments, ça peut être de la musique, ça peut être des fêtes.
À la
ça
fin,
peut
c'est ce qui reste.
Ouais, bon, non, à la fin, il reste rien, mais c'est pas grave.
En tout cas, si t'as pas besoin d'argent pour te nourrir sur une île, il y a potentiellement la pêche et on peut peut-être trouver des homards et les faire cramer pour nous parler de la manière dont tu as fait la fiesta après la revente. Tu nous as proposé Burning Lobster.
Yes.
Et alors, c'est un petit groupe là qui est en train de monter. Je sais pas si tout le monde le connaît. C'est Shyman and PKM. Et je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Est-ce que celui-là, il est déjà sorti?
Non, en fait, j'adore. Ça sort. Non, tout ça, c'est l'exclu. Ouais, ça sort très bientôt.
C'est quoi la rencontre avec Simon?
À une soirée chez un pote, il mixait, il passait le son. Et ça, c'est une copine qui envoie ça, c'est marrant. Lobster. Et donc, j'ai trouvé qu'il était super sympa. On a discuté comme ça. Et puis, à un moment, je lui ai dit que ça faisait un moment, je voulais faire de l'électro. Il m'a dit, attends, faisons-en ensemble. J'ai dit, mais tu sais, je connais rien à Ableton, ce qui est le logiciel avec lequel on. Et il me dit, mais c'est pas grave, viens, on essaye, quoi. Et donc, on a fait Burning Lobster. C'est notre premier track ensemble. Il avait fait d'autres tracks avant. Lui, par ailleurs, c'est mort, il est entrepreneur. Il a monté une boîte qui s'appelle Pianity, qui fait de la NFT dans la musique, qui cartonne. Et donc, quand il n'est pas en train de monter sa boîte, il prend un peu de temps pour faire de la musique avec moi. Et c'est bon, on s'éclate, c'est très sympa. Et on en fait tout à l'heure encore. Et Burning Lobster, c'est aussi un clin d'œil à Burning Man, puisque sur mon île, il y a beaucoup de lobsters. Et donc, tous les ans, je fais une soirée sur l'île où on est une petite centaine et que j'appelle Burning Lobster. En fait, on a composé la chanson
mini
à ce
Burning
moment-là.
Man,
ouais, tout petit, hein.
Ouais, mais pas 80 000.
Ouais, non, ouais, c'est juste le nom qui est.
Tu bon, brûles du bois ou pas à la fin? Il y a une statue, ouais, c'est ça, ouais.
Mais un homard en bois, ouais. Les vrais homards, on les mange.
On peut la laisser jusqu'au bout, celle-là?
À fond.
Top exclu.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci,
c'était un plaisir.
Très bon moment.
Merci Renaud, merci Thomas.